Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous voir. Ça fait quelques semaines, de longues semaines, que j'ai ce message sur mon cœur et voilà les circonstances dramatiques de notre géopolitique se sont invitées à dans ces dernières semaines. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, dans ces temps si troublés, si difficiles, qui nous interpellent, comment, en tant que chrétien, on peut trouver notre chemin? Comment se frayer un chemin, à la fois dans ce qui est de l'actualité, d'aujourd'hui, mais aussi dans les mois, les années à venir? Je crois que le chrétien a besoin de fil conducteur pour cheminer dans ces périodes si douloureuses, si difficiles. Et j'avais envie de parler de trois paraboles et d'un texte qui, je l'espère, seront de deux ordres, à la fois une parole d'encouragement pour notre vie chrétienne, pour notre foi, et ce sera aussi une parole qui, je l'espère, va nous convaincre de choisir. Je dis toujours, notre Dieu ne s'appelle pas fatalité. Nous avons été créés à leur image, c'est-à-dire quelqu'un de responsable, responsable de sa vie, de ses choix dans sa vie, et de son éternité, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous ne vivons pas dans un temps où tout est écrit d'avance et il n'y a rien à changer. Alors nous allons parler de ces sujets qui se trouvent dans Matthieu 24 et 25. Alors je ne vais pas enseigner sur tout Matthieu 24, 25. Et je ne vais pas aborder non plus toute la dimension prophétique que Jésus a apportée. Vous prendrez le temps de lire à la maison. Beaucoup ont travaillé ces textes, et c'est des textes sur l'avenir du monde et les temps de la fin. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir enseigner là-dessus. Je trouve que c'est des domaines qui ne sont vraiment pas faciles. Et beaucoup ont déjà enseigné là-dessus et on trouve plein d'interprétations possibles. Mais il y a des clés dans ces deux chapitres qui sont ces fils conducteurs qu'on va pouvoir suivre. Alors, Matthieu 24, on va lire jusqu'au verset 5. Comme Jésus s'en allait, donc on est à la fin de la vie de Jésus, il est en train d'aller vers son chemin, vers sa croix. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Nous avons là ce début de la dimension prophétique de Jésus. Ses disciples sont admiratifs du temple qui est là, et voilà que Jésus n'est pas toujours plein de grâce, de beauté et de bonté. Boum ! Il annonce une destruction terrible pour le peuple d'Israël. Et ces jours, je me suis dit, et nos temples à nous, qu'en sera-t-il dans l'avenir? Nous avons des temples en Europe, pas des églises, je parle, nos structures politiques, nos convictions. Tous ces temples-là, que va-t-il advenir d'eux dans les décennies, les années à venir? Je n'ai pas de réponse et je crois que personne n'en a. Néanmoins, nous pouvons trouver dans ces chapitres des références de ce qui va être nos choix à nous. Ce qui m'a frappé dans ces textes, c'est que dans plusieurs versets, on vient de lire, Jésus dit « Prenez garde à cause de la séduction ». Ça, c'est un des éléments importants. Hein, au verset 11, il est mis « Des faux prophètes viendront et ils séduiront beaucoup de gens ». Au verset 24, de faux Christ, de faux prophètes, qui feront des miracles et des prodiges pour séduire même les élus. Quand on sait qu'aujourd'hui, que l'intelligence artificielle est capable de créer des situations complètement inexistantes, mais qui paraissent complètement vraies, alors oui, les miracles et les prodiges pour l'intelligence artificielle, ce sera possible. C'est déjà possible aujourd'hui. Donc comment, même les élus, comment cheminer pour ne pas être séduit, en tout cas pour discerner la séduction? C'est dans Marc 13, 9, où il est dit une clé importante, « Prenez garde à vous-même ». Hein, là, je pose des petites pièces du puzzle autour de nous. On revient à Matthieu 24 qui dit, Jésus nous dit, « Personne ne sait ni le jour ni l'heure, seul le Père le sait. » Donc nous, on a beau anticiper, préparer, penser, réfléchir, se dire « ça va être comme ci ». Personne ne sait comment et quand ça va se passer, seul le Père. Même le Christ a eu l'humilité de ne pas chercher à le savoir. Il aurait pu poser la question à son père. Mais le père a trouvé bon que seul lui garde cette chose secrète. Au verset 42, Jésus dit « Veillez donc ». Et au verset 44, il est dit « Tenez-vous prêts ». Donc là, Jésus nous montre que les événements lui appartiennent, les temps lui appartiennent, appartiennent à Dieu, mais ce qu'il nous appartient à nous, c'est de prendre garde à nous-mêmes, de savoir qu'il va y avoir de la séduction, d'être vigilant, de veiller et de prier, qu'il nous a dit, et de se tenir prêt. Alors, tout ça, c'est des beaux mots, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là que Jésus, encore une fois, il ne nous laisse pas sans nous expliquer les choses. Il donne trois paraboles et après, au verset 25, on aura un texte qui, là, ne sera pas une parabole, sera un événement qui se réalisera, mais dont j'ai trouvé l'intérêt identique à celle des paraboles. Alors, vous allez être frappés, je pense autant que moi, que dans ces quatre textes, il y a une notion qui est, alors je dis honnêtement, pour moi, si j'avais eu un ciseau et que je pouvais couper ces textes, ça m'arrangerait bien. Parce qu'ils ne me montrent pas l'image du Dieu que je veux, mais Christ est Dieu. Et s'il a dit ces choses, c'est que c'est comme ça. Et que ce n'est pas à moi à décider quel passage de la Bible m'arrange et quels sont les passages qui ne m'arrangent pas. Et s'ils sont là, c'est qu'ils sont pour mon bien. Donc, il y aura dans ces quatre textes une notion de choix, comme je l'ai dit, de séparation. C'est difficile, mais c'est la réalité, c'est comme ça. C'est Jésus qui le dit, donc il a autorité pour nous le transmettre. Alors, la première parabole se trouve dans Matthieu 24, les versets 36 à 44. Jésus nous redit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, seul le Père. Et il nous explique que les gens continueront à vivre comme au temps de Noé. Et Jésus nous dit, il dit alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, et de deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et là, Jésus nous dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Terrible, hein? Ouais, honnêtement, hein? Si je pouvais couper des bouts. À qui Dieu s'adresse? Quel est le serviteur prudent que son maître a établi sur ses gens? Je crois que dans ce passage, Dieu s'adresse à ceux qui ont la responsabilité du troupeau et de la maison de Dieu. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Je crois que là, Dieu s'adresse aux personnes qui sont responsables, en charge de responsabilité dans l'Église, dans le fait de vivre leur service. Et dans la motivation de ce service. On voit que le méchant serviteur, en termes de contraste, se dit « Mon maître tarde à venir ». Nous voyons que la motivation profonde, au-delà du service, les deux servaient, mais un, dans son cœur, dans sa motivation, avait perdu l'objectif final, qui est de se dire à tout moment, le Seigneur, le Maître, peut revenir. Et en fait, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait que un est considéré comme fidèle et prudent et l'autre comme hypocrite. C'est surprenant, hein? Et là, le jugement de Dieu est terrible. Donc, on se rend compte quand Dieu s'adresse à ceux qui ont la responsabilité de la maison du maître et de nourrir les gens qui sont là. Si on perd l'objectif de cette notion du retour de Jésus dont on ne connaît pas l'heure, eh bien, on perd son cœur et on se laisse aller à des choses qui ne sont pas celles que devrait être l'attitude de quelqu'un qui est en charge de responsabilité. On lit dans Hébreux 12, 1, ce verset qui dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Le péché qui nous enveloppe si facilement. Hein, on peut petit à petit dérailler et puis se retrouver dans une situation où, du fait qu'on ne sait pas quand le maître revient, eh ben, le Seigneur va poser un jugement sur cette chose-là. Et je crois que c'est sérieux. Mais, je répète, dans sa bonté, Jésus nous avertit. Jésus nous explique les choses. Jésus avertit toujours. On ne peut pas dire qu'il fait des choses sans nous avertir, sans nous expliquer. Sinon, là encore, on serait des poupées chiffons qui seraient menées comme ça par le bout du nez. Mais ce n'est pas lui. Hein? J'ai marqué ici, on ne peut pas délier le service auquel on est appelé du maître qui peut revenir à tout moment. Et je crois que ça doit être une clé de notre service par rapport aux personnes à qui Dieu a confié la responsabilité du troupeau. On a un deuxième exemple après, que vous connaissez certainement. Il est question de la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux, Matthieu 25, 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Folles, enfin, là aussi. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme les poules tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne, nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, à quelle population peut s'adresser cette parabole ? En fait, il est intéressant de savoir que dans le judaïsme, il fallait être 10 au minimum pour entamer une prière publique. Donc là, nous avons le minimum d'une communauté. Je pense que cette notion des 10 vierges est une représentation de la communauté. Certaines personnes, ce sont des vierges, donc on peut dire que ce sont des personnes que Dieu a rendues pures par son sang, lavées par l'eau de la parole. Et l'huile que ces 10 vierges ont et que l'on peut avoir dans la communauté et que nous avons tous si nous sommes nés de nouveau, c'est le Saint-Esprit. Que se passe-t-il là? Visiblement, toutes avaient le Saint-Esprit. toutes pouvaient en bénéficier. Quelle est la différence qui a été marquée? Et je repense à cette parole de Jésus qui dit « Prenez garde à vous-même ». Quelle est la différence? Est-ce que je vis suffisamment ma relation avec Jésus au travers du Saint-Esprit? Je crois que c'est une question importante. Est-ce que nous avons soif d'entrer en relation avec Jésus au travers du Saint-Esprit, avec le Seigneur, l'Esprit? Est-ce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? L'Église a commencé le jour du baptême du Saint-Esprit. La communauté a commencé ce jour-là. C'est le Seigneur qui l'a fait. Où est-ce que je me situe par rapport à ça? Où j'en suis? Je crois que c'est une question importante. Et on se rend compte que si on n'a pas cette vision d'une relation personnelle avec celui qui sera notre époux, donc il y a une question de cœur. Est-ce que mon amour pour Jésus va jusqu'au point de chercher continuellement cette relation personnelle avec lui et de la cultiver avec l'aide de l'Esprit-Saint? Parce que Jésus est clair, un jour, et on ne sait pas quand, ça peut être ce soir, ça peut être, on ne sait pas, heureusement qu'on ne sait pas, parce que je crois que si je sais le terme, alors dans mon cœur, c'est plus la même chose. Mais là, mon cœur, au quotidien, est interpellé, parce que comme pour le serviteur fidèle, il y a quelque chose au loin. Et bien souvent, en tant que chrétien, en tout cas c'est mon cas, ma vision de ma foi s'arrête à mon quotidien, ou en tout cas à ma vie terrestre. Et je sais que quelque part, j'ai souvent négligé cet objectif vers lequel Jésus nous mène, qui est de passer l'éternité avec lui. Et c'est ça, notre regard doit s'élever dans cette direction-là. Et c'est cette direction-là, cet objectif que Jésus nous fixe, qui motive ma vie d'aujourd'hui. Et là, dans cette parabole, il est question d'un époux. C'est fort. Je crois que la différence entre ces vierges sages et ces vierges folles, c'était d'oublier cette relation d'amour avec notre Sauveur et notre Seigneur, dont j'ai la responsabilité de cultiver par l'Esprit Saint pour en avoir des réserves, de l'abondance, hein. Jésus parle de l'eau vive qui coule, qui ne s'arrête jamais. Il y a de l'abondance avec l'Esprit-Saint. Mais là encore, quel va être mon choix? En fait, ça ne va pas dépendre de Jésus. Et lui, il me dit les choses. Il m'avertit, il m'informe. Mais quel va être mon choix à moi pour qu'un jour je sois trouvée comme celle qui est sage? Et il dit bien, veillez donc, on est de nouveau dans une attitude de vigilance à ne pas oublier, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ça doit être des clés d'un changement, en tout cas de réactualiser, hein, mon logiciel chrétien, si on peut dire les choses comme ça, pour le mettre dans la bonne direction. Et là, il s'agit de la communauté. À la fois, c'était 10 vierges, 10 individus, mais dans un collectif. Donc on a cette responsabilité à la fois individuellement et collectivement. J'en suis convaincue que le fait de se rassembler comme ça le dimanche, c'est pas juste des habitudes religieuses, c'est de vivre quelque chose avec celui qui deviendra notre époux avec l'aide du Saint-Esprit, ensemble, pour une prière publique collective, puisqu'il fallait 10 personnes dans le judaïsme. Et je crois que Jésus n'a pas fait ce choix des 10 vierges pour rien. Il ne fait jamais rien pour rien, d'ailleurs. La troisième parabole, c'est la suivante. C'est la parabole des talents. Je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est longue. C'est un homme qui part en voyage, qui appelle ses serviteurs. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2, à un autre 1. Et en fait, là aussi, au retour du maître, le maître fait le bilan. Et on constate que celui qui en avait 5, il en a produit 5 autres, que celui qui en avait 2, il en a produit 2 autres, et que celui qui en avait 1, il est allé enterrer son talent. Et c'est ça que Jésus, à la fois, honore pour les 2 premiers en leur disant qu'ils sont fidèles, et celui qui va enterrer son talent, lui, il dit des choses. Il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné ? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui celui qui a les 10 talents. » Et après, il y a une punition qui s'installe. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors, vous me direz, et j'en suis convaincue, Dieu nous a tous donné des talents. 1, 5, 2, 10. Nous avons tous reçu des talents parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous avons des talents et c'est important de les découvrir. Mais qu'est-ce qui fait la différence ici? C'est la vision du Maître. Qui est Jésus? Pour certains, cette vision de Dieu était certainement d'être un Dieu bon. Il n'y a pas eu de crainte. Dieu est bon, j'ai des talents, je fais ce qu'il faut. C'est évident, c'est simple. Pour le dernier, en fait, toute sa vision de Dieu était un Dieu dur, qui punit, qui est sévère. Et en fait, le fait de ne pas porter de fruits ne provient pas de mes qualités de gestionnaire ou de plein d'autres choses. Le fait de porter du fruit provient de mon cœur. Prenez garde à vous-même. Où en est mon cœur et ma vision de Dieu? Parce que selon que je vois un Dieu dur, jugeant. Alors, est-ce que c'est Christ qui a enlevé les talents de celui-là? En fait, il y a quelque chose, c'est que selon la manière dont je conçois Dieu dans mon cœur, cela produit du fruit comme une boule de neige. C'est un principe spirituel. on voit pour les deux premiers. Ils ont une vision de Dieu qui est bonne, qui est juste, qui est saine, et ça va de soi. Ça roule dans ce sens-là. L'autre a une vision qui est d'un Dieu dur, et ça va dans l'autre sens, de moins en moins. Et cette notion, quand Jésus dit « on donnera à celui qui a » et « on ôtera même ce qu'il a à celui qui n'a plus grand-chose », c'est un principe que Jésus évoque déjà dans d'autres endroits dans la parole. Donc, à qui s'adresse cette parabole des talents ? On se rend compte qu'il s'adresse à tout un chacun dans l'Église. Chacun est serviteur. Chacun reçoit des talents. Toute la question, c'est où j'en suis dans mon cœur par rapport à ma vision de Dieu. Et je crois que là, si j'ai une vision d'un Dieu dur, ce qui est étonnant, par exemple, dans ce serviteur méchant, comme le premier, il est question de paresseux. C'est surprenant, moi, je trouve. Paresseux. Alors, est-ce que dans mon cœur, je veux me mettre à travailler sur ma vision de Dieu ? Qui il est ? Et est-ce que je veux le laisser me transformer ? Hein ? Il y a un verset que j'ai beaucoup aimé. On va peut-être le marquer. Alors, c'est Matthieu 13, 12 ou Matthieu 13, 13 à 17. Matthieu 12. Matthieu 13, je vais le lire. Alors, Matthieu 13, pas 12. C'est là, Matthieu, ouais. Alors, le 12, Jésus dit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, « Vous entendrez de vos paroles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, et ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je crois que Dieu explique ce processus. Si je ne remets pas mon cœur entre les mains de Jésus, je prends le risque de cet endurcissement progressif et que je n'ai peur de me convertir et d'être guéri. Vous voyez la boule de neige qui continue. Mais si je laisse le Saint-Esprit, si je travaille, puisqu'il est question de paresse, hein, si je m'attelle au fait de chercher la personne de Dieu, qui il est et comment, encore une fois, vivre cette relation d'amour avec lui, alors mon cœur va petit à petit quitter sa dureté. Ça va devenir un cœur de chair, un cœur qui se transforme. J'aime beaucoup le titre d'un livre qui s'appelle « L'évangélisation des profondeurs ». C'est un livre magnifique qui explique ça. On se convertit, on entend l'évangile au jour J, on dit « Oui Seigneur » et on entre dans le salut. Mais après, cette annonce de l'évangile doit aller dans mes profondeurs. Jean-Marc disait de conquérir le pays de mon cœur. Et c'est important parce que je ne sais pas quel jour Jésus va revenir et si mon cœur sera suffisamment prêt pour être capable de porter ce fruit. C'est une question de cœur, le fruit. Ce n'est pas une question d'activisme. C'est une question de cœur et de laisser le Saint-Esprit toucher ma vie et que je puisse conquérir mon pays intérieur. Sinon, on sera jeté dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est sérieux. Je crois que la parole de Jésus est sérieuse. Et le dernier passage que je voulais prendre, c'est dans... J'ai encore un petit peu de temps. On se dépêche, je fais vite. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est passionnant. C'est dans Matthieu 25, les versets 31 et suivants, où là, ce n'est pas une parabole, ce sera une réalité. C'est Jésus qui s'adresse, il est dit au verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Et là, il est question de la parole sur le fait d'avoir eu faim, d'avoir eu soif, d'avoir été étranger, d'avoir été nu, malade ou en prison, et vous avez pris soin de moi, ou alors vous ne l'avez pas fait, et chaque fois il dit, c'est à moi que soit vous l'avez fait, soit vous ne l'avez pas fait. Et ce que j'ai trouvé d'étonnant, c'est qu'il y a une phrase où il dit, c'est au verset 40, il est dit, « Ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et après, il reprend « à l'un de ces plus petits ». Donc, j'ai pensé comment comprendre. Et je me suis dit, il y a trois possibilités qui sont, à mon avis, qui ne s'opposent pas. Les frères de Jésus, c'est le peuple d'Israël. Chaque fois que nous aurons pris soin de ces petits, de ces moindres, qu'est le peuple d'Israël, c'est à Jésus que nous le ferons. C'est quelque chose de sérieux, vraiment. Et on est dans une actualité brûlante. Ce qui m'a frappé ces derniers temps, au-delà des horreurs qu'on a pu entendre et voir, c'est qu'on arrive dans un temps où on a des choix à faire. On se rend bien compte, on voit en France toute la situation de la population, tout le monde est gêné par rapport à plein de choses. Je crois que Dieu nous enjoint de faire des choix. Je crois que bénir Israël et faire ce qu'il faut à leur égard et ce qui est juste, c'est à Jésus qu'on le fait. Jésus nous dit, le salut vient des Juifs. Alors je sais que tout n'est pas idéal. Israël a eu des rois qui étaient selon le cœur de Dieu et d'autres qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Mais le seul qui a le droit de juger Israël, c'est leur père. Il juge Israël comme un père corrige son enfant, son fils. Et tous ceux qui se sont aventurés à juger et condamner Israël en ont eu une rétribution grave en retour. Je crois que Dieu, notre Dieu et le Dieu d'Israël est un Dieu totalement juste. Et il fera et il fait ce qu'il faut. Et la parole là de Christ, elle est importante. Et il faut le dire. Et nous allons être amenés certainement dans les temps futurs à nous positionner par rapport à ça. Alors chacun fera les choix qu'il veut. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là juste pour dire ce que Christ nous a dit. L'autre aspect de ses frères, Jésus dit, quand on fait venir les frères et les sœurs de Jésus vers lui, il dit, « Mais ceux qui font ma volonté sont mes frères et sœurs. » Donc je crois que chacun qui fait la volonté de Christ sont aussi les frères de Jésus dans ce passage. Et après, Jésus parle des petits, des moindres. Il ne reprend pas la notion de... Et là, on sait qu'on peut parler de l'évangile social, c'est-à-dire de l'engagement que l'on peut avoir. Là aussi, c'est une affaire de cœur, de sensibilité. On ne peut pas porter toute la misère du monde, comme on dit. Mais je crois que dans son cœur, en relation avec le Seigneur, on peut savoir quand il y a une visite à l'hôpital à faire, quand il y a un verre d'eau à donner, quand il y a... C'est à Jésus qu'on le fait. Et je crois qu'au-delà de tout un chacun, il est important de voir que derrière chaque être humain, il y a Christ qui se tient. Et je crois que c'est une vision extraordinaire. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Il y aura encore plein de choses à dire, mais voilà, c'est des encouragements. Comment cheminer en tant que chrétien dans des temps qui sont et qui seront encore très difficiles. Ces choses-là, quand on les lit aujourd'hui, c'est peut-être facile à les mettre en pratique, mais voilà, je sais qu'au Nigeria, un pasteur de l'église apostolique et un de l'église des ADD ont été assassinés récemment. Un jour, voilà, ça va coûter de suivre Jésus, mais il nous donne là un fil conducteur. Et surtout, que dans notre motivation et notre amour, on sache que ça va au-delà de ce qui est terrestre. Ça va être le maître, le Seigneur, mais ça va être l'époux, le roi. C'est lui, notre Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça doit motiver nos choix, la direction que nous avons à prendre pour ne pas se laisser le péché nous environner de partout. Et je terminerai avec Luc 21-28. « Quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, redressez-vous, car votre délivrance est proche. » Que Dieu nous bénisse et nous aide dans notre route. Amen.